appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mboujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Parole aux auditeurs. La Commission électorale nationale indépendante CENI a publié vendredi 29 mars la liste définitive des candidats retenus pour les élections des sénateurs et des gouverneurs de province. Sur les 1115 candidatures enregistrées au sénatorial, 1103 ont été retenues. Les 12 autres ont été déclarées irrécevables. Concernant les élections des gouverneurs de province et leurs vice, 251 candidatures restent en liste sur les 237 enregistrées. 6 candidatures sont donc recalées. Selon un communiqué de la CENI, les élections de gouverneurs de province auront lieu le 29 avril. Les candidats validés vont battre campagne devant les députés provinciaux du 25 au 27 avril. De leur côté, les candidats sénateurs seront en campagne électorale du 18 au 20 avril. Les élections sénatoriales sont prévues le 22 avril 2024. Que faut-il pour résoudre la problématique de la gouvernance provinciale en RDC? C'est autour de cette question que nous allons échanger pendant environ 55 minutes dans ces nouveaux numéros de Parole aux auditeurs. Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi intervenir en direct en composant les 081 890 63 30 ou les 081 890 49 69. Jean-Claude Tiala est à la mise en onde de ces magazines et Blaise Chindani en assure la réalisation et la coordination. À la présentation, Guy Maté.
Parole aux auditeurs.
Encore une fois de plus, bienvenue dans ces nouveaux numéros des Paroles aux auditeurs et merci à tous ceux qui ont réagi sur la page Facebook et aussi ceux qui se sont inscrits pour réagir. Nous parlons aujourd'hui de la problématique de la gouvernance provinciale à l'approche des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Pour commenter ces sujets, nous recevons en ligne M. Gustave Bagayamoukou Etadji, il est président de l'Association pour la défense des intérêts du Kivu Bukavu Adib en sigle. Bonjour M. Gustave Bagayamoukou Etadji.
Bonjour messieurs les journalistes, je suis très heureux encore d'être ici dans votre journal ce matin, merci beaucoup.
Nous sommes à la veille des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs de province, mais il faut les souligner. C'est des élections qui semblent ne pas susciter beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'espoir dans l'opinion à la suite, n'est-ce pas, des difficultés que connaissent nos provinces pour décoller, difficultés liées notamment à la gestion de ces provinces. Monsieur Gustave Bagayamoukou Etadji, comment, de manière générale, vous analysez la problématique de la gouvernance provinciale en RDC?
Mais écoutez, d'une façon générale, vous savez que ça pose un problème, hein. C'est vrai que c'est devenu plutôt pratiquement dans toutes les provinces de notre pays depuis un certain temps. Et là, je suis en train de parler de la démocratisation effective depuis les premières élections démocratiques dans notre pays. Je parle ici pratiquement de 2006 essentiellement jusqu'à ce jour. Ça semble poser des problèmes alors que, bon, bien avant cela, effectivement, nous avons vécu une période dictatoriale dans ce pays où, finalement, personne ne s'est plaint dans nos provinces. Et à l'époque, la gouvernance était assurée ou plutôt ordonnée par un seul parti politique, un seul président de la République. Tout le monde appartenait à ce seul parti politique-là et la gouvernance ne posait apparemment pas, en tout cas, autant de problèmes que ça pose aujourd'hui parce que toutes les provinces étaient gouvernées effectivement par des personnes qui venaient des originaires, des non-originaires, c'était la gouvernance des non-originaires. Et ça, c'était dans l'objectif, en fait, de la dictature de l'époque qui tenait à pouvoir unifier le Congo, à garder un Congo uni autour d'un seul chef, un seul peuple et tout cela. Et cela a réussi en termes d'unité et c'est ce qui encore continue à justifier peut-être, hein, les réactions de certains Congolais. Et nous sommes attachés tous à l'unité du Congo jusqu'à aujourd'hui par rapport à ce comportement, mais, j'insiste, c'était une époque et il y avait un régime dictatorial à l'époque. Et je pense que ceci a été vaincu parce que finalement ce régime a été décrié par la majorité de notre population et aujourd'hui nous sommes dans une démocratie. La démocratie, maintenant, si ça marche ailleurs, il faut se poser maintenant la question si c'est ce régime démocratique qui est problème au niveau national Je ne sais pas.
Justement, monsieur Bagayamou, justement, qu'est-ce qui cloche? On est en démocratie, mais qu'est-ce qui fait que les institutions, n'est-ce pas, qui doivent accompagner ces processus démocratiques posent problème?
Non, personnellement, je pense, je pourrais peut-être plus tard parler de la province du Sud Kivu, parce que chaque province a ses spécificités et son histoire. Il y a peut-être des explications que je peux donner de façon claire en ce qui concerne la province du Sud Kivu, mais d'une façon générale, il est clair aujourd'hui que vous devez savoir que la démocratie que nous avons aujourd'hui dans ce pays, à partir de 2006, ça n'a duré que quelques peu de temps après, nous avons des partis politiques qui n'ont plus d'idéal. En fait, il n'y a plus un parti politique ou une idéologie politique qui donne, en fait, un mode de gestion différent des autres, se basant sur une certaine idéologie ou un certain projet de société ou, une vision quelconque. Donc, il n'y a plus de vision, il n'y a plus d'idéologie, il n'y a même plus de projet de société différent des autres.
Il n'y a plus de vision, il n'y a plus d'idéologie, il n'y a pas de projet de société. Et justement, vous êtes président de l'Association pour la défense des intérêts du Kivu Bukavu Adib en sigle. Le Sud Kivu est l'une des provinces les plus instables, si pas la province la plus instable à la suite notamment de la cohabitation difficile entre les institutions provinciales. Et on sait qu'il est difficile de voir un gouverneur tenir pendant une année sans qu'il ne soit secoué par l'Assemblée provinciale. Et vous qui êtes dans cette province, vous qui connaissez bien cette province, qu'est-ce qui peut expliquer les cas spécifiques du Sud Kivu?
Au Sud Kivu, les choses sont tellement... nous pouvons les expliquer de par l'histoire et de par la suite. Vous savez que ce pays, depuis l'indépendance, a connu des problèmes. Des problèmes de guerre et d'occupation. Et toutes ces guerres-là, qui sont venues déjà après l'indépendance, quelques années après, les gendarmes katangais qui avaient fui en Angola pour revenir au Congo ici, soi-disant reprendre le pouvoir, etc., au lieu de rentrer par le Katanga, ils sont venus comme des diabos ici à Bukavu. Et c'est passé par le Sud Kivu jusqu'à Bukavu. Donc depuis 63... Après les diabos katangais, il y a eu les Pierre Moulélé, en fait, la rébellion mouléliste, qui a commencé au Bandundu, au lieu d'aller directement à 400 km là-bas, et ça fait des tours qui s'organisent pour venir à Bukavu ici faire des ravages incroyables. Après cela, il y a eu gendarmes katangais, en fait, qui ont recruté des mercenaires. Les mercenaires, Jean Scram, Bob Denard, qui sont venus s'installer à Bukavu ici pour commencer leur... rébellion plutôt pour aller...
Monsieur Gustave, c'est quoi le lien entre ces différentes rébellions et la gouvernance de province dont nous parlons aujourd'hui?
Il arrive tout de suite parce que ceci a forgé un certain comportement dans la population du Sud Kivu de façon pérenne. Donc la population a résisté, c'est la seule population, la ville de Bukavu essentiellement, parce que c'est par là où les choses se sont passées depuis tous ces temps. Et à l'époque, nous étions encore à le Grand Kivu, et la ville de Bukavu a résisté donc sous ces différentes formes de guerre. Et malheureusement, je vais le dire maintenant, quand nous passons vers la démocratie, la population du Sud Kivu, quand nous commençons réellement, nous quittons donc Mobutu part. La démocratie, si elle a commencé un peu partout dans le Congo de façon régulière ou normale, mais chez nous ici, elle a commencé avec les guerres d'occupation, l'AFDEL, le RCD, ainsi de suite, et vous connaissez l'histoire. Et ça, ici, donc, nous n'avons pas abordé la démocratie de façon propre comme partout ailleurs, dans les autres provinces. Nous, c'est avec une occupation déjà du RCD, parce que c'est ici que l'AFDEL a commencé. Et la population a résisté justement contre ce pouvoir usurpateur, des gens qui sont venus en fait dominer et s'imposer à nous. Ce comportement-là, qui a vaincu effectivement, qui a vaincu l'AFDEL, qui a fait les passés pour aller évoluer tout à fait ailleurs, jusqu'à ce qu'il s'est arrivé à Kinshasa, malheureusement après, le RCD a refait la même chose. Le Bukavu, le Sud Kivu, a été occupé à ce moment-là, pratiquement de la même façon que le Nord Kivu et le Maniema, et c'est là que vous trouverez la différence. Même au moment du draft, même à l'époque du régime du RCD, même à l'époque du régime du 1+4, et même finalement quand le vrai régime démocratique arrive chez nous, finalement après, et donc de suite qui vous, la population a un réflexe dont il faut tenir compte. Nous n'accepterons jamais, cette population n'acceptera plus jamais des gouvernants politiques qui nous sont obligés. Ça, c'est la seule chose qu'il faut constater, c'est une particularité. Si aujourd'hui les autres provinces, c'est vrai, forme de rébellion, c'est en fait des rebelles contre les gouvernants du fait de la mauvaise gestion, du fait de, je ne sais pas quoi, de guerres communautaires, etc., tribales, tribus et compagnie. Mais au Sud-Kivu, essentiellement, toutes les communautés sont d'accord, sont unanimes et de façon, comment dire, spontanée, nous refusons d'être dirigés par des gouvernants qui nous sont imposés. Et donc, après les usurpateurs, après tous ceux qui sont venus en occupation, après toutes ces guerres, et maintenant, malheureusement, la démocratie est arrivée chez nous avec maintenant les impositions de ce qu'on appelle aujourd'hui les autorités morales et des partis politiques. Nous sommes tombés d'office directement dans des partis, 1000 partis politiques aujourd'hui, à l'époque c'était 300 quand ça a commencé chez nous, et donc il n'y avait plus une certaine idéologie qui pouvait guider une population pour dire nous adhérons à un parti politique pour telle idéologie, nous adhérons à un parti politique pour telle vision ou pour tel projet de société. Rien de tout. Aujourd'hui, nous en sommes à 1000 partis politiques. Et donc, même les partis politiques, entre elles, il n'y a personne, aucun parti politique ne peut prétendre aujourd'hui dans notre démocratie avoir une majorité pour pouvoir diriger. Donc, donner ce que ce parti politique peut penser être une vision ou la pensée du maître, etc. Il n'y a plus rien de tout cela.
Et donc, vous voulez dire que, M. Bagayamoko, vous voulez dire que l'interférence des Kinshasa à travers les autorités morales qui sont établies dans la capitale et qui décident qui sera gouverneur, qui ne le sera pas, qui établissent même les listes et qui les imposent aux députés provinciaux, cette interférence est aussi l'une des sources des conflits entre les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux?
C'est la plus grande source de conflit aujourd'hui. Vous savez que nous sommes dans un pays démocratique. Les gouvernants, les politiques provinciaux, ils doivent être issus de la population, donc de la volonté populaire. Malheureusement, je le dis encore, étant donné que les autorités morales elles-mêmes, déjà à partir de Kinshasa, partout peuvent être, personne d'entre eux ne pouvant plus avoir une majorité pour utiliser suivant sa volonté. Voilà comment ils se mettent eux-mêmes déjà, ils t'emprisonnent parce qu'ils se mettent ensemble pour dire voilà, nous allons mettre un ticket AFDC-UNC, un ticket, je ne sais pas, UDP, je ne sais pas quoi, tout ça. Mais quand il y a un ticket, quand les gens parlent en termes de ticket, quand les gens parlent de dire voilà, maintenant ce n'est plus telle tribu, c'est telle autre tribu. Mais nous sommes dans l'antidémocratie, ici nous effaçons la volonté du peuple. Parce que là vous imposez maintenant telle tribu plutôt que telle autre. Comment le message passe aux élus du deuxième degré, donc nos députés qui sont élus par la population, quand ils arrivent, ce sont les amis là-bas, les autorités morales, les partis politiques, qui ensemble disent, écoutez, vous prenez le gouverneur, le gouvernorat provincial, moi je prends le vice-gouvernorat, et ça on impose aux élus du peuple, qui eux aussi maintenant ne traduisent plus la volonté de ces populations-là, et la population, comme les choses se passent de façon plus ou moins vulgaire, d'ailleurs, on montre à tout le monde que c'était telle autorité, telle autre qui sont mis d'accord pour imposer telle. Écoutez, la population réagit de la même façon comme elle s'est comportée vis-à-vis du RTD qui est venu en pouvoir d'occupation.
Merci.
Nous nous comporterons toujours de la même façon.
Merci, monsieur Bagayamoko. On vous retient encore dans cette émission. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Capi. Vous suivez en ce moment votre magazine Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de la problématique de la gouvernance provinciale à l'approche des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs avec notre invité, M. Gustave Bagayamoko Taji. Il est président de l'Association pour la défense des intérêts du Kivu Bukavu Adib en sigle. Si vous voulez réagir, vous pouvez appeler au 081-890-63-30 ou 081-890-49-69.
Parole aux auditeurs.
Voilà, donc Blaise me signale que nous avons quelques auditeurs qui sont déjà en ligne. Franck de Vienne. Franck, est-ce que vous êtes là?
Oui, mon ami Dimathe.
Oui, Franck.
Je suis en ligne, je vous salue.
Bonjour.
Bonjour
Franck Desvienne. Franck, votre point de vue par rapport à au sujet d'aujourd'hui sur la problématique de la gouvernance provinciale en RDC.
Oui, merci beaucoup. C'est déjà bien si la CENI de son côté s'acquitte de ses multiples contraintes et prérogatives légales relatives à son calendrier électoral, en publiant non seulement ces listes définitives des candidats retenus pour ce cours électoral, mais également en communiquant toutes les autres étapes relatives à toutes ces élections qui s'annoncent au courant de ce mois d'avril. Avant de répondre à la question capitale du débat, permettez-moi de faire un peu un constat. Je me rends compte qu'il y a toujours un engouement des candidatures, par exemple pour la compétition sénatoriale. Nous avons là 1103 candidats sur les 100 sièges à pourvoir. Si nous devons faire une petite moyenne passagère, ça serait de 11 candidats par siège. Et nous avons 231 candidats pour 26 provinces. C'est pas mal, nous sommes en démocratie, mais parfois on se demande pourquoi seulement cet engouement politique. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de s'intéresser aussi à autre chose, dans la mesure où nous savons que pour les élections sénatoriales, pour les élections de gouverneurs, il y en a qui peuvent mettre beaucoup d'argent en jeu pour soudoyer ces électeurs. Et cet argent, toutes ces sommes-là pouvaient aussi servir à développer certains micro-projets pour créer des emplois. Mais si on doit seulement disposer de 200-300 000 dollars pour acheter un poste et que parfois on passe pas, on se demande vraiment si il n'y a que la politique qui est la vraie industrie productive chez nous. Et puis par rapport à la question même du jour, que faut-il faire pour par rapport à cette problématique de la gouvernance? Monsieur Guy, permettez-moi de... Allô?
Allô, Franck, oui, on vous suit, allez-y.
Oui. Oui, permettez-moi de répondre à cette question à travers des objections. Nous avons une constitution en République démocratique du Congo qui est en fonction, qui est en vigueur. Et dans notre constitution, on a expliqué comment les provinces doivent être gouvernées, c'est moyennant la rétrocession ou bien moyennant la décentralisation. Nous avons toutes les lois relatives à cette vision de la décentralisation, mais la question c'est de nous demander si la constitution en soi d'abord est convenablement respectée ou si toutes les dispositions relatives à la décentralisation de nos provinces, de nos entités territoriales sont convenablement respectées. Dans la mesure où si la constitution n'est pas respectée et si toutes les autres dispositions ne sont pas respectées, à qui la faute? Est-ce que la problématique sera résolue en elle-même ou ça dépend aussi des hommes qui doivent mettre la constitution en application? Une des deuxièmes objections, nous avons toujours des hommes chez nous qui compétissent à certains postes électifs. On ne va pas aller parler sur le profil ou quoi, mais il faut seulement aussi se demander si on tient d'abord compte de mérite, de compétences, où on tient seulement compte des recommandations de la popularité ou des calculs que tel fait ou par rapport à quoi. Et de trois, nous nous disons un État démocratique, c'est bien. Les pays portent même l'épithète République démocratique du Congo. Mais si nous devons revoir les modus vivendi de notre manière de faire de la politique, notre culture politique, est-ce que ces élans démocratiques, est-ce que ces idéaux de la démocratie sont vraiment ancrés en nous ou on se cache derrière les épithètes alors que sur la manière de faire, ce n'est ni la démocratie ni. Alors, je crois que c'est de ce côté-là que nous, citoyens congolais, devrions arriver à objecter de manière polie et claire pour faire voir à nos dirigeants que parfois ils pensent dire des choses, mais en réalité, ils ne font pas ce qu'ils disent. Donc, pour le moment, nous savons qu'ils vont se bousculer, ils vont se coincer pour obtenir seulement ces postes électifs, mais il y en a qui ne vont le faire que par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur poche. Ils ne tiendront même pas compte des désidératas de la population. Nos sénateurs, parfois, ils n'iront même pas en vacances parlementaires là où on les a élus. Nos gouverneurs vont se faire élire. Mais parfois, au lieu de respecter les désidératas des besoins de leurs provinces respectives, ils vont se mettre à faire des choses par rapport aux consignes qui leur sont données. Et il y a autant d'interférences politiciennes venant de Kinshasa pour imposer telle, lors des votes, on vous donne des consignes. Et tout ça comme problème, c'est lié à beaucoup d'aléas. Il y a d'abord le manque de culture politique, il y a le manque de volonté politique. Et il y a aussi l'attitude d'insoumission à toutes les dispositions légales qui nous régissent. Et
merci,
vu tout ce qui se passe là, c'est un peu difficile de parler du développement dans notre pays parce que Le développement est d'abord mental. C'est au niveau de la tête qu'on doit se développer pour faire appliquer ce développement sur les structures et les infrastructures. Mais déjà, si au niveau de la tête, la mentalité n'est pas développée, la mentalité est encore liée à l'égoïsme, à l'individualisme, au tribalisme, au népotisme, au fanatisme, au clientélisme, en tout cas, on pourra débattre et débattre, mais on reviendra au même endroit.
Merci, Franck. Peter Maboudi, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là, Guy. Bonjour. Bonjour à l'invité, ainsi qu'à tous les de la Radio Capu et Franck qui vient de nous quitter.
Bonjour, Peter Maboudi. On vous écoute, Peter Maboudi.
Oui, merci beaucoup pour la parole m'accordée. Je crois la question de la gouvernance de nos provinces, c'est une question épineuse parce que le Congo a besoin de se développer et d'aller en avant si cela ne doit passer que par les animateurs qui doivent animer les institutions publiques de l'État. C'est pourquoi nous disons, M. Guy, que partant de ce que Franck venait de parler, ces questions, ce sont des questions vraiment primordiales auxquelles nous devons beaucoup plus nous focaliser. Je prends partant de son constat qu'il a fait. Vous regardez tous les candidats qui ont postulé au niveau de gouverneurs, vice-gouverneurs, sénateurs, sont majoritairement ceux qui sont devenus députés, qui sont députés nationaux, également députés provinciaux, qui est même, c'est pas encore candidat. Nous nous posons nous-mêmes d'abord la question en tant qu'analyste, comment ils ont pu accepter d'être élus national et aujourd'hui ils cherchent encore à occuper d'autres postes. Et les postes qu'ils ont occupés et l'équipe, ils veulent les céder à qui? C'est là où nous avons toujours dit que nous menons une politique familiale basée sur les intérêts égoïstes et familiales comme nous l'avons toujours dit. Je crois que c'est un moment idéal où nous devons avoir des personnes compétentes qui doivent animer les provinces afin de résoudre la question de la gouvernance. Il vous souviendra, M. Guy, que dans les quinquennats qui venaient de passer, les provinces ont été victimes d'instabilité politique, instabilité politique presque dans la majorité. Et surtout pour le choix même de l'invité, vous avez évoqué le cas d'une province qui n'a pas connu cette situation. Mais pourquoi toutes les autres provinces ont connu le cas d'instabilité? Et cela est dit à quoi? C'est la gouvernance. Et si toutes les motions qui ont été initiées contre le gouverneur, les députés évoquaient toujours la question d'incompétence, de la mauvaise gestion. Aujourd'hui, nous voulons parler de la gouvernance qui doit mettre fin à l'incompétence et à la mauvaise gestion. Si et seulement si les choix que les députés auront à se manifester, que ça soit un choix judiciaire qui pourrait apporter un élément capital pour le décollage des provinces. Et ces choix que les députés doivent opérer doivent nécessairement se baser sur certains principes de critères que Franck venait également de noter. Le premier critère, c'est celui d'abord de la moralité du candidat. Nous avons plusieurs candidats qui seront gouverneurs, sénateurs. Quelle est d'abord leur moralité sociétale? Comment ils se comportent dans la société? Donc si nous avons un dirigeant qui se comporte très mal et que nous recevons un mot d'ordre venant de Kinshasa, des autorités morales comme nous les décrions, nous n'aurons qu'à pleurer après. Le deuxième critère, c'est d'abord le critère de celui qui a un leadership politique fort, éclairé, exceptionnel. Nous avons certaines personnes qui sont bien sûr en politique, mais qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de leadership. Si ce n'est que l'arrogance. Et autour de l'arrogance, on n'aura pas à avoir un bon leader. Donc, si on a un gouverneur qui est arrogant, et tout ça parce qu'il est influent dans la politique, et qui n'a pas un leadership fort et éclairé, donc nous aurons un problème de gouvernance. Le troisième critère, c'est le critère lié à l'environnement politique, économique, administratif et également communautaire. Tous les gouverneurs qui ont postulé sont issus des communautés, ils sont issus des membres des partis politiques, mais s'ils n'arrivent même pas d'abord à maîtriser l'environnement politique dans lequel ils œuvrent, je crois qu'il sera difficile de parler d'une bonne gouvernance.
Merci, cher Peter Maboudi. François Okundji, depuis Tchikapa, est-ce que vous êtes là?
Oui, bonjour Guy Maté, bonjour à toute l'équipe de la Radio Capu, singulièrement à Kelly Kouté, Marcel et les autres qui me suivent à travers les pays. Bonjour aussi à votre invité, Gustave.
Bonjour François Okundji. On vous écoute, François Okundji.
Merci pour la thématique qui est très importante, qui est à son air, parce que nous sommes bientôt là, dans moins de 20 jours, nous serons appelés à avoir le nouveau député, le nouveau gouverneur, le nouveau sénateur. Bon, écoutez, de ma part, je voulais
donner ma part dans ce sens. La problématique de la gouvernance provinciale en RDC, il faut que les partis au pouvoir évitent les dictats politiques, accentués par les modes d'ordre aux élus provinciaux, qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité d'exercer leur choix conformément aux aspirations de la population. Mais c'est dit, Maté, laissez-moi vous dire que, avant que je puisse citer, j'ai fait un coup d'œil en 2021, donc vous-même vous connaissez tous. Nous prenons seulement la région du Grand Kassai, en 2022, au mois de juin. On a fait des élections de gouverneurs. Des candidats qui étaient valablement aimés par la population et aimés par les députés, ce n'est pas ceux qui ont été élus. Il y a eu des dictats au niveau de Kinshasa, comme vous l'avez souligné là, dans votre assistant avec M. Gustave. Nous sommes au Kassai central. Au Kassai central, nous sommes au Kassai central et Kassai oriental. C'est déjà passé, mais nous en parlons pour que ça puisse donner un œil aux députés qui vont bientôt aller voter. Nous sommes au Kassai central à Kananga, où il y avait que deux candidats qui faisaient rage, notamment M. Piero Mutela Mukendi et M. John Kabeya Shikai. Mais laissez-moi vous dire que M. Piero Mutela Mukendi était un candidat local où la population avait donné de l'espoir. Jusqu'à la dernière minute, on a le parti au pouvoir a fait descendre en urgence un hélicoptère avec des militaires de Kinshasa qui vont corrompre aux députés, qui vont donner du temps aux députés, leur dire. Ils ont fait même un son sonore pour dire c'était le président de la République qui parlait qu'on puisse voter John Kabeya. Aujourd'hui, vous connaissez les résultats à Kananga, au Kassai central, avec les chefs de l'État qui n'ont pas abouti à des solutions comme
François Kondji.
Kabeya Machabidi.
Est-ce que vous m'écoutez? François Kondji. Allô?
Allô?
Oui, vous êtes malheureusement en train de citer les noms, en train de faire des allégations sur des personnalités qui ne sont pas là pour se défendre. Hein. Donc, allons sur le principe hein, qu'on évite de citer les noms des personnes parce que ces personnes ne sont pas là pour donner leurs moyens de défense. Allez-y.
Merci pour la remarque. Mais sur le principe, c'est que nous devons laisser la démocratie, les choix clairs aux élus provinciaux et qui ont réussi le mandat de la population. Monsieur Guy Maté, notre grand frère, vous vivez à Kinshasa. À Kinshasa, nous passons là-bas, il y a des conditions valablement quand même acquises là où vous travaillez, mais il faut voir dans l'espace Grand Kassai. Il faut qu'on laisse les choix aux députés provinciaux pour qu'ils ne créent pas les malheurs à ces mêmes députés en 2028. Nous avons besoin de gouverneurs compétents qui maîtrisent l'espace de la province.
Merci.
Qui maîtrisent les besoins fondamentaux de la population, qui peuvent rendre aussi efficacement un bon travail au président de la République et à madame la première ministre qui venait d'être nommée. Écoutez,
on a compris votre idée, monsieur François Kondji.
Il est parti au pouvoir, mais on peut avoir aussi des gouverneurs qui ont des visions en même temps avec le chef de l'État, mais qui seront investis par le chef de l'État. Ils ne peuvent pas aller en dehors de la vision du chef de l'État. Donc, brièvement, laissons les choix aux députés provinciaux de faire ce qui est nécessaire. Merci,
monsieur Gustave Bagamoukou. Est-ce que vous êtes là?
Je suis en ligne, oui, merci.
Voilà, vous avez suivi les différents auditeurs. Hein. On a Franck qui intervenait depuis Vienne en Autriche, hein, et lui qui estime que la Constitution n'est pas respectée dans certaines de ses dispositions, notamment en ce qui concerne les ressources financières qui doivent être destinées, n'est-ce pas, au développement des provinces. Et il parle des principes démocratiques qui ne sont pas respectés. Il évoque aussi cette question d'interférence politicienne hein, qui constitue pour lui un handicap pour le développement de ses provinces. Il y a Peter Maboudi qui a parlé de la politique familiale basée sur les intérêts égocentriques. Il a parlé du critérium, n'est-ce pas, sur lequel doivent se baser les députés provinciaux pour se choisir les différents gouverneurs et vice-gouverneurs. Il y a François Okundji qui revient, n'est-ce pas, sur les dictats de Kinshasa, donc les interférences de Kinshasa, à partir de Kinshasa, et pour imposer, n'est-ce pas, les dirigeants des différentes provinces. Lui pense qu'on doit laisser les choix aux députés provinciaux de pouvoir se choisir les dirigeants des différentes provinces. Vous avez la parole, M. Gustave Bagayamoukoué.
Monsieur le journaliste, vous comprendrez que vous pouvez poser la question à tous les Congolais aujourd'hui, ils vous diront la même chose. Tout le monde a constaté le blocage là où il est, et quand je résume les différents intervenants, que ce soit M. Franck, que ce soit Peter Mamoudi ou François Okoudji, tous disent la même chose que nous sommes en train de décrire aujourd'hui, et tous les Congolais décrivent la même chose. Le problème se situe où, malheureusement, les législateurs, ou finalement l'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale, elle est justement constituée de ces personnes-là, essentiellement, qui, à cause de leurs millions, à cause de leur argent, à cause de leur...
Allô? Allô, Gustave Bagayamoukwe? Apparemment, on l'a perdu, on va essayer de les rappeler. Mais on me signale qu'en ligne, nous avons Dr Michael Bolingo. Dr Michael, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis tellement connecté. Merci de m'avoir associé une fois de plus à cette émission. Je salue l'invité, la Radio Capi.
Oui, alors, Michael Bolingo, bonjour. Vous intervenez depuis la ville de Goma, en Nord Kivu. Allez-y, on vous écoute.
Effectivement, à l'heure où je vous parle, je suis à l'hôpital. Alors, je dis merci pour ce débat d'aujourd'hui. Les prédécesseurs l'ont déjà dit, parce que moi j'ai eu à échanger avec certaines autorités au niveau provincial du Sud Kivu, et ils nous disent quoi? Ils disent que normalement ils subissent toujours des injonctions de la part de Kinshasa et des autorités morales. Alors je ne sais pas comment nous allons parvenir quand même à supprimer ce genre d'affaires. Parce que si vous regardez très bien, je prends par exemple pour la province du Sud Kivu, où je viens à peine de passer quelques jours, c'est une province où les 5 cas du chef de l'État viennent de se finir sans aucune route, en plein centre-ville, s'il vous plaît. Quand vous regardez la ville, vous quittez Bukavu à Chabunda, aucune route. Vous quittez Bukavu pour Uvira, dans les 8 territoires, aucune des routes, s'il vous plaît. Alors, si vous interrogez ces autorités, vous disent non, il y a un conflit entre les autorités, donc le gouverneur et puis les députés provinciaux. On se retrouve, il y a une cacophonie dans la gestion des choses. Alors, si l'argent récolté pour toute la province, l'argent est transféré à Kinshasa, les 40% de rétrocession n'est plus respecté. Et le gouverneur se retrouve en difficulté. Presque toutes les provinces se retrouvent en difficulté de gérer le pays parce qu'on ne respecte pas la constitution. C'est ainsi que je voudrais proposer, il faudrait d'abord travailler sur l'homme congolais. Il doit suffisamment avoir vraiment une formation en rapport avec notre constitution. Ils doivent suffisamment faire le suivi des affaires. Pourquoi? Parce que quand vous regardez très bien, nous avons de très bonnes lois, nous avons une très bonne constitution, mais on ne respecte pas. Parfois, je me demande, est-ce que les autorités pensent gérer le pays comme il faut, ou bien ils le gèrent de la façon dont on gère son couple? Il y a des choses que nous ne devons pas oublier, très chers journalistes. La gestion d'un pays, on ne doit pas y mettre on ne doit pas vraiment être un aventurier dans la gestion du pays. Nous devons gérer le pays tel qu'il faut et à respecter les lois de la Constitution. Le contraire, les pays ne va pas se développer. Les 5 cas que nous venons d'accorder encore au chef de l'État, c'est que c'est son dernier espoir. Si les Congolais ne parviennent pas à se retrouver, c'est-à-dire aucun cas de l'IDP se viendra nous dire que non, voilà, nous avions été au pouvoir, voilà, il nous faut un autre mandat. Alors, pour les cas maintenant des provinces, la gestion des provinces, d'abord, il faut respecter les 40% de rétrocession. Retenez à la source, s'il vous plaît. D'aider, éviter les injonctions de Kinshasa, de trop éviter des gérances tribalo-ethnique dans la gestion des différentes provinces. Voilà un peu ce que j'avais comme contribution par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Merci.
Merci, docteur Michael Bolingo. On vous souhaite prompte guérison parce que vous nous avez dit que vous êtes à l'hôpital. On suppose que c'est pour des raisons de santé. Maître Patrick Odia, vous intervenez depuis la ville de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Bonjour, Maître Patrick Odia. Maître Patrick Odia. Voilà, apparemment, il n'est pas encore là. Monsieur Gustave Bagayamoukwe, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis en ligne, oui.
Voilà, vous venez de suivre le docteur Michael Bolingo qui intervenait depuis Goma, qui revient aussi sur cette question d'interférence de Kinshasa dans les choix, n'est-ce pas, des gouverneurs. Et parmi les pistes des solutions, il propose le respect, n'est-ce pas, des 40% de la retenue à la source, ce qui est constitutionnel, et aussi voir comment éviter toutes ces interférences des Kinshasa. On sait qu'il y a de cela quelques semaines, quelques mois, le chef de l'État s'est lui-même insurgé contre tout ce qui se disait autour des tractations, autour des candidatures des sénateurs et gouverneurs, avec les cas des corruptions qui étaient rapportés. Mais on se rend compte qu'en dépit de la mise en garde, n'est-ce pas, faite par les chefs de l'État, les gens continuent, n'est-ce pas, avec toutes ces pratiques-là, hein. On apprend aujourd'hui que pour les prochaines élections des gouverneurs, les états-majors sont en train de faire des tractations pour imposer, n'est-ce pas, les gouverneurs. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour mettre fin à cette pratique? Parce que là, on sent que même le chef de l'État lui-même a intervenu. Il a même demandé à la ministre de la Justice de sévir. Mais en dépit de cela, apparemment, cela n'a pas découragé toutes ces personnes-là.
Mais ça ne peut pas décourager parce que ce sont les tenants du pouvoir. C'est eux-mêmes qui sont à la base de toute de la prise en otage de nos populations et même de là de ce pays. Nous sommes encore en train de dire, personne n'ignore les irrégularités qui ont entaché les dernières élections. Tout le monde en a parlé, chers amis. Nous avons dénoncé ce que nous avons vu, chacun dans ses provinces. La CENI elle-même, elle a dit qu'elle avait invalidé, je ne sais pas, une centaine ou 200 personnes. En fait, ils ont sorti une liste et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. C'est-à-dire que ce sont les mêmes décideurs, finalement. C'est au niveau des mêmes décideurs que se pose le problème, parce que c'est eux-mêmes, justement, qui ont les moyens, et Dieu seul sait, cet argent qu'ils distribuent comme ça pour prendre la population en otage, prendre la gestion du pays en otage, Dieu seul sait d'où utilise cet argent. Il n'y a jamais de l'argent propre qui peut être distribué comme on distribue l'argent là-bas pour prendre la population, prendre et la gestion de ce pays en otage. C'est pas de l'argent propre.
Oui, vous parlez, monsieur Gustave, vous parlez des tenants de pouvoir, les décideurs, mais le chef de l'État est parmi ces décideurs, lui-même s'est insurgé contre ça, et c'est le premier citoyen de ce pays. Et je me dis, logiquement, lorsque le chef de l'État s'insurge contre certaines pratiques, logiquement, elles doivent cesser, n'est-ce pas?
J'aurais souhaité qu'il m'écoute, parce que, dans tous les cas, il reste lui le garant de la nation, et il nous a déjà donné, lui, au moins, on a vu le degré de patriotisme, le degré de nationalisme qu'il anime et comment il se bat tout seul pratiquement dans tous les cas dans le premier mandat qu'il vient de terminer là-bas. Et c'est pour cela que nous sommes derrière, nous voudrions nous l'aider. Mais comment pense-t-il justement pouvoir gérer ce problème au moment où la CENI elle-même a constaté les irrégularités et donc les élus actuels, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial, sont sortis de ces mêmes irrégularités-là où l'argent a eu gain de cause sous la volonté populaire. Ça, c'est déjà un problème. Mais comme nous sommes de votre structure des textes, les pouvoirs judiciaires ont déjà décidé, ils ont déjà validé, les nationaux comme les provinciaux, mais cette fois-ci, le chef d'État lui-même, comme vous le dites, est intervenu pour interpeller même la ministre de la Justice. Et ça nous a vraiment, nous tous, ça nous a donné encore de l'énergie pour pouvoir parler de ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Mais ce que le chef de l'État a dit, quels sont les moyens pour endiguer justement cette problématique? Parce que c'est la volonté du chef de l'État. Il a même demandé à ce que les cours des tribunaux, Madame la ministre avec les procureurs, les parquets, tout se mette en place. Mais comment est-ce qu'on peut empêcher aujourd'hui à ces députés, à ces, comment on appelle, autorités morales, de donner des mots d'ordre? Comment pouvons-nous faire maintenant pour que les élus du deuxième degré, donc les députés provinciaux aujourd'hui, puissent être réellement faire des élections décidées de chacun voter pour le candidat qui a présenté un projet de société, qui a répondu, je sais pas moi, aux questions, qui a répondu à un profil, parce que nous sommes allés vers dans le sens même de proposer un profil, le profil que nous appelons un profil d'un bon dirigeant, une province, notamment la province du Sud-Kivu. C'est un travail que nous avons fait, nous, dans le cadre de l'association ici, depuis 2010.
Et pour vous, c'est quoi le profil d'un bon gouverneur d'une province, en ce moment-ci, M. Gustave Bagamoukwe?
Non, chers amis, vous comprenez très bien que quand on vous amène un gouverneur de province, c'est vraiment parce qu'il vient de Kinshasa, il vient de la Belgique, parce qu'il a l'argent, l'autorité morale a donné de l'argent, il devient gouverneur de province. Chers amis, nous avons défini un profil, nous, déjà, suivant la problématique du Sud-Kivu en 2010.
en disant d'abord que le bon dirigeant pour le Sud-Kivu, déjà à l'époque, et aujourd'hui ça reste valable, ça doit être une personne qui justifie d'une personnalité forte, hein, au sein de l'opinion, tant locale que nationale. Ça doit être un patriote, un rassembleur. Vous savez que partout dans nos provinces, il y a cette problématique-là des tribus, des communautés, etc. Ça doit être quelqu'un qui est au-dessus de tout ça. Quand on commence à parler aujourd'hui de voilà, telle tribu a déjà été là-bas, il faut telle autre tribu, mais nous quittons justement cette recherche de la méritocratie, cette recherche de l'excellence. Parce que l'excellence, ça signifie une personne patriote et rassembleur. Il peut de n'importe quelle tribu, de n'importe quel parti politique, mais il vient pour l'intérêt du grand ensemble, de la province tout entière. Il faut distinguer, il faut que de nos élus aient ce profil-là et décide chacun dans son fort intérieur de qui il veut donner sa voix.
Et vous pensez que les provinces de la RDC, comme celle du Sud-Kivu, n'ont jamais eu ces personnalités qui répondent à ces profils-là, fortes personnalités, des personnes patriotes, rassembleurs. Vous pensez qu'ils n'ont jamais connu ces gens-là? On peut avoir ces gens-là qui ont ces profils, mais lorsque Kinshasa décide d'imposer sa logique, ça pose problème. Lorsque on sait que, comme l'a dit Franck de Vienne, la rétrocession tombe au compte-goutte, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas, d'abord, la retenue à la source des 40% n'est pas respectée, n'est jamais appliquée, et même cette rétrocession qui a été décidée par le gouvernement central tombe au compte-goutte. Qu'est-ce qu'un tel monsieur peut faire, même s'il est animé de bonne foi, même s'il a toutes les qualités du monde, il peut faire quoi lorsque les conditions ne sont pas réunies, lorsque Kinshasa est en train d'imposer sa logique, lorsque il fait face, n'est-ce pas, à tous les chantages des députés provinciaux, lorsqu'il n'a pas assez de moyens pour financer ses projets de développement, qu'est-ce que la personne pourrait faire, monsieur Gustave Bagadamoukoui?
Chers amis, retenez que les mêmes causes, on l'a toujours dit, les mêmes causes dans les mêmes circonstances produisent et produiront toujours les mêmes effets. Ici, moi, vraiment, je ne voudrais pas qu'on parle des effets collatéraux produits par les causes. Parce que dire qu'on manque d'argent, dire que la rétrocession ne vient pas, ça, ce sont des effets collatéraux de produits des causes. Il n'y a aucune province qui peut manquer d'argent si la population est derrière le gouvernement provincial. Parce que nous avons des taxes. Au Sud-Kivu, je vous dis le cas du Sud-Kivu, le Sud-Kivu ne paye pas des taxes. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon dont nous nous sommes comportés ici pour chasser le RCD, pour chasser l'AFDEL. Hein? On a fait une résistance populaire jusqu'à aujourd'hui, ça compte et c'est comme ça que ça marche, il n'y a pas de taxes. Les gens ne payent pas. Les gens ne payent pas, ils refusent de payer des taxes quand ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement provincial. Et donc, 40%, les 40% c'est le produit, c'est une partie de ceux qui auraient été payés déjà au niveau de la province. Donc ça, ce sont des effets collatéraux. Nous devons parler des causes et trouver des grandes solutions à ces causes-là profondes.
Voilà, on va parler des solutions à la fin de l'émission et on revient encore à nos auditeurs. Hein. Ici, on va aller à Lubumbashi. On me signale que on a retrouvé Maître Patrick Odia. Maître Patrick Odia, bonjour.
Bonjour, bonjour Marcel et bonjour à tous les invités, à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Kati.
Aujourd'hui, c'est Guy Maté, Maître Patrick Odia. Vous avez la parole.
En tout cas, bonjour Guy Maté, on s'habitue des temps en temps avec les changements en fait. Parler de la gouvernance, on ne peut pas parler simplement de la gouvernance administrative, financière, politique et qu'en soit. Il faudrait, avant de parler de la bonne gouvernance, parler également des critères. Je ne voudrais pas revenir sur les critères, je pense que les autres, Peter, M. Labbé, ont y allé dire, les critères, la probité, la morale, la compétence, le leadership, la vision et tout ça. Je voudrais pas revenir là-dessus. Mais j'ai parlé avec un avocat célèbre de ce pays, Maître Jean Bosco Badibanga, qui a écrit un article sur Kinshasa, siège des hommes forts. Il a dit ceci, je cite, « Quelle que soit la voie par laquelle l'élite politique congolaise acquiert un mandat public, nomination, élection ou cooptation, elle ne sentira pas en sécurité son poste non plus, pas avant d'avoir fait allégeance et obtenu l'équitif de Kinshasa, capitale de la RDC et siège des hommes ou des institutions du pays. Gouverneur, ministre, provinciaux, maire de ville, bourgmestre, administrateur des territoires, voire les chefs des secteurs, ont finalement compris que pour demeurer invulnérablement et inamovible dans leur poste, ils ont intérêt à s'effrayer un couloir des hommes forts en agissant en intelligence avec Kinshasa. Ça veut dire quoi? Les mots d'ordre, les dictats donnés par Kinshasa pour qu'on puisse élire le chef de l'État, pour, j'allais dire, pour qu'on puisse élire le gouverneur ou le député, le président des assemblées provinciales. Ce sont des effets qui, ou des signes qui nous amènent toujours à une mauvaise gouvernance. Rappelez-vous, lorsqu'on essaie de convoquer un gouverneur pour répondre à une question orale avec débat à l'assemblée provinciale, il se constate qu'il ne peut pas y aller parce qu'il se sent en insécurité et parce que le mot d'ordre interviendrait de Kinshasa lui disant « il ne faut pas y aller ». Ça fragilise les contrôles parlementaires. Et quand il n'y a pas contrôle parlementaire, on ne peut pas parler de la bonne gouvernance. Voyez-vous, il y a eu des gens, dirigeants gouverneurs, soi-disant dans l'espace Kassai, où une gouverneure se réveille un bon matin, elle décide de nommer le maire de la ville, elle change de territoire, elle devient subitement des villes, sans aucune éthique juridique, sans maîtrise même des lois qui régissent le fonctionnement des provinces également. Comment une gouverneure peut-elle se permettre de nommer le maire de la ville et de changer des territoires et des villes, des territoires et des groupements en ville en un instant? Je pense que c'est le résultat que nous avons voulu. Que faire devant ces défis? Je pense que la première des choses, il faut avoir le courage de modifier la Constitution pour que les gouverneurs et sénateurs soient élus directement au scrutin direct, comme nous le faisons avec les députés nationaux, comme nous le faisons avec les députés provinciaux. Deux, il faudrait que la rétrocession des 40% soit effective. Je pense que l'État également a une part de responsabilité. Nous ne devons pas toujours indexer les gouverneurs, mais aussi parce qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir avoir les moyens de leur politique. Il faudrait que l'État central, l'État gouvernement central, puisse prendre également ses responsabilités en rétrocédant 40%. Ainsi, la participation et le contrôle parlementaire et le contrôle populaire permettront à ce que tout le monde également puisse voir le développement tant entendu des provinces.
Merci, Kinshasa
ne doit pas être un siège, le siège des hommes forts, amis, maman du président, femme, épouse, et petit frère du président. Ils doivent cesser toute influence.
Merci, Maître Patrick Ozia. On a compris. Obed, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Obed. Obed, est-ce que vous êtes là? Voilà. Monsieur Gustave Bagamoukwe Tadji, nous tendons vers la fin de cette émission. Vous avez parlé des solutions, hein, tout a été dit ici, mais c'est quoi les solutions selon vous?
La première des choses, chers amis, je ne dirai jamais assez, il faut un critérium qui mette tout le monde d'abord d'accord, consensuellement. Parce que pour que, même si le chef de l'État, comme il a dit, il a prévu, il a pensé que on devrait revenir à la nomination des gouverneurs, mais il faut qu'il y ait un critère, parce que les nominations aussi peuvent être fantaisistes en fonction de tel critère qui échappe à la connaissance de la population. Nous devons nous mettre d'accord, il faut qu'il y ait un critère défini clairement, comme les amis ont dit ici dans la Constitution, on ne sait pas que ça fasse partie des lois, pour dire voilà, le gouverneur de province doit répondre à tel critérium. Et donc nous en avons cité, nous pouvons encore continuer, les amis en ont donné d'autres, moi j'en ai d'autres caractéristiques, il faut ça. De sorte que, maintenant, si nous devons aller vers, les élections au suffrage universel au niveau des provinces, c'était une solution déjà, pour que la population se sente réellement impliquée, qu'il sente que le gouvernement provincial vient de lui directement. C'est une chose de problème de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Ça, c'est le grand problème que nous avons depuis tous les temps. Même quand on a commencé à démembrer, on a commencé par démembrer la province du Sud Kivu ici, du Grand Kivu, c'était soi-disant pour rapprocher les gouvernés des gouvernants. Mais quand vous les rapprochez et qu'il y a toujours manque de confiance, la façon dont les chefs, certains parviennent à occuper les postes de direction, quand on ne gère pas ce genre de choses de façon à respecter les textes et les lois du pays, nous aurons toujours un problème, un déficit de confiance et en définitive, le gouverneur de province, quand il vient, quel que soit ce qu'il représente, quand il ne vient pas de la population, il ne pourra jamais travailler comme il se doit.
Et c'est quoi votre point de vue par rapport à ceux qui ont toujours pensé qu'il faut mettre fin à ce système des gouverneurs, en fait, la territoriale des originaires, et qu'il faut modifier, comme vient de les proposer Maître Patrick Ozia, modifier certaines dispositions de la Constitution pour passer de l'élection indirecte à l'élection directe des gouverneurs?
Vous comprenez, il ne faut pas parler d'une chose de son contraire. Quand nous parlons, par exemple, des élections directes du respect de la démocratie, nous ne pouvons pas y aller pour dire, voilà, la gestion des non-originaires. C'est impossible. La gestion des non-originaires aujourd'hui, moi je pense, en fait, j'ai les choses de faire en parler à un certain moment, moi je pense que ce n'est pas la solution, ça ne sera plus la solution, parce que il faut rentrer dans un régime dictatorial pour faire ce genre de choses. Et nous sommes déjà aujourd'hui en démocratie, c'est la victoire du peuple contre la dictature. Et donc, aujourd'hui, c'est un problème de critères précis. Effectivement, si nous allons, nous voulons vraiment, privilégier la confiance qui doit être entre le gouvernant et le gouverné, nous devons aller vers les élections au suffrage universel au niveau des provinces. Donc, laisser la population directement se choisir le gouverneur de province. Et même si le chef de l'État peut décider aujourd'hui, parce que c'est effectivement, ça serait aussi notre voie, nommer. Mais il faut que lui aussi nomme en fonction des critères. Nous devons viser l'excellence. Nous avons toujours, nous avons grandi, nous avons évolué, chers amis, en étant derrière un seul chef qui est parvenu à être responsable du fait qu'il a été le premier, l'excellent, l'élite, le plus méritant de tous les autres. S'il faut passer par des examens, s'il faut passer par, je ne sais pas, d'autres critères, il faut des critères précis. En tout cas, pas rentrer sur des choses du genre, le parti politique tel doit décider, et c'est un tribut qu'il doit prendre, etc. Non.
Oui, nous sommes, monsieur Gustave Bagamoukoué, nous sommes à la fin de l'émission. En conclusion, quel est votre souhait, quel est votre vœu pour que les élections qui vont se dérouler d'ici là, les élections du gouverneur, puissent se tenir dans un climat d'apaisement et puissent donner, n'est-ce pas, les animateurs qui vont effectivement permettre à nos provinces de décoller cette fois-ci?
Au niveau où nous en sommes, dans tous les cas, je pense qu'on ne peut plus changer les lois. On aurait dû changer les lois peut-être avant d'aller aux élections, mais au niveau où nous en sommes aujourd'hui, qu'on laisse tout simplement, qu'on puisse prendre des dispositions pour que les élus au deuxième degré, donc les députés provinciaux aujourd'hui, réellement que ce soit de façon transparente vis-à-vis de la population, parce qu'ils sont là-bas comme des élus du peuple, et pas des élus, pas des vassaux, pas des mercenaires de leur parti politique et de leurs autorités morales. Ils doivent savoir eux-mêmes, et la population doit avoir un contrôle sur la façon dont le vote va se passer de façon transparente. Il faut qu'on prenne des dispositions pour que ces gens-là soient libérés de ces emprises et de ces autorités morales, merci, de ces partis politiques, pour que la majorité d'entre eux puissent mettre en place au moins la personne qui eux-mêmes vont voir adopter pour dire voilà, celui-là au moins c'est le produit de nous, les députés de la majorité.
Merci, merci. C'est par là que nous terminons cette émission. Nous disons merci à notre invité, M. Gustave Bagamoukoué Tadji. Merci aussi à tous ceux qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Jean-Claude Nsiala qui était à la technique et Blaise Chindani qui l'a réalisé et coordonné sous la supervision des Pélékipé Lamondo, à la présentation Guy Maté. Merci encore une fois de plus et bonne suite des programmes sur Radio Capi. On se retrouve demain pour un autre sujet.